Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, comment on se retrouve dans Radio Foot International dans cette série d'émissions grâce à l'actualité, bien sûr. Et nous commencerons aujourd'hui avec et à Marseille. Marseille au fait de l'actualité, au centre des attentions pour sa flamme qui se balade à travers la ville depuis ce matin avant l'apothéose au stade Vélodrome avec Didier Drogba pour dernier relayeur de la journée. Et puis l'Olympique de Marseille qui jouera ce soir sa qualification pour une finale européenne. Loin du Vel, rendez-vous en Italie sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Deux équipes à égalité, 1-1 après l'aller. Tout peut donc arriver. Thomas Tselenger est déjà sur place alors que l'adversaire en finale devrait être le Bayern qui reçoit à Leverkusen et avec deux buts d'avance l'AS Roma. Une 18e finale de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Les Merengues ont hier soir fini par éliminer le Bayern Munich sur le score de 2-1. Les Bavarois ont été qualifiés durant une vingtaine de minutes. Et Thomas Tuchel, l'entraîneur des Bavarois, digère bien mal cette élimination. Et puis nous évoquerons aussi la qualification de la Guinée aux Jeux Olympiques de Paris. Les Guinéens, les jeunes Guinéens de moins de 23 ans ont décroché tout à l'heure à Clairefontaine cette qualification et nous en parlerons avec Cédric De Oliveira. Mais pour l'instant, je vous présente ceux qui, dans le studio, vont nous aider aussi à décrypter cette actualité. Bonjour, Monsieur Philippe.
Bonjour, Madame Annie.
Je dis pas la suite, tout le monde sait. Bonjour, Philippe Doucet, tout va bien?
Oui, parfait.
Je ne parlerai pas de votre bronzage, hein, n'est-ce pas, parce que
un peu raté,
mais c'était à des fins de travail.
Tout à fait.
C'est pas encore Roland Garros.
Un tournoi à Agadir, un tournoi de jeunes, l'Africa's Cup, qui était très réussi.
Bonjour Étienne Moati.
Bonjour, moi on est obligé de dire mon nom de famille. C'est Étienne, l'auditeur ne me reconnaîtrait pas.
Vous n'êtes pas encore monsieur Étienne, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Ça ne vient pas forcément avec l'âge, ça vient avec le reste aussi.
Bon.
David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Beaucoup d'émotions. Quand on est là-haut, on a l'impression d'être le maître du monde parce qu'avec une flamme olympique, il y a une ferveur spéciale. Il y a un passage de haie sportivement qui est, voilà, ça fait battre le cœur et c'est fantastique. Là-haut, il y a beaucoup d'émotions, on voit tout Marseille. C'est pas évident, en même temps, c'est un passage de relais sportif et l'olympisme, c'est exceptionnel. On est le premier et en même temps, on est une ville exceptionnelle qui touche. En 30 secondes, on vit quelque chose de particulier.
L'émotion de Basile Boli, il en a même l'accent marseillais. Basile Boli, à jamais le premier, et oui, le buteur de la finale remportée en 1993 dans les rangs de l'OM, était ce matin le premier relayeur de cette flamme olympique à l'heure de la sortie de la messe. Hein, vous avez entendu les cloches de la Bonne Mère de Notre-Dame de la Garde. Et toute la journée, donc, les 188 porteurs de cette flamme se relayent dans les rues de Massalia, bien sûr, le nom originel de la cité fondée par les Grecs. Après avoir descendu la colline de la Bonne Mère, la flamme est passée par les docks de la Joliette, par le Vieux-Port, la Corniche, le parc Borély. Bref, un long parcours dans la deuxième ville de France. Et cela s'achève au Vélodrome. Alors, dans le stade, et autour, hein, ce stade au toit blanc que l'on voit si bien du port, eh bien, se trouve notre envoyé spécial, Baptiste Coulon. Bonjour Baptiste.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors Baptiste, racontez-nous, cette flamme est en approche ?
Oui, cette flamme, elle est en approche. Alors, on ne peut pas la voir de là où je suis parce que je me trouve sur le site des célébrations, juste au pied du stade de Vélodrome. On ne peut pas être plus près, en quelque sorte. Et c'est sur ce site des célébrations, vous l'entendez derrière moi, que, bah, comme son nom l'indique, il y a beaucoup d'animation, que se trouve aussi le chaudron olympique qui va être allumé tout à l'heure en guise de clôture de ce relais, allumé bien sûr par Didier Drogba. On en parlait juste avant et c'est évidemment tout un symbole après toute une journée, cette flamme olympique qui arrive devant devant l'Olympique de Marseille, devant son antre. C'est évidemment un symbole très fort, l'allumage du chaudron dans quelques minutes pour conclure aussi ce qui aura été le 8e relais de la journée. Il y a eu 8 relais au total, plus de 200 relayeurs mobilisés. Pour ce dernier relais, il y en a 50, des relayeurs, des anonymes bien sûr comme toute la journée, mais aussi des célébrités. Et celui que tout le monde attend là, parce que ça va arriver dans une heure à peu près, c'est Soprano, le chanteur marseillais, parce que Soprano, après avoir enflammé le Vieux-Port hier soir, eh bien, il est prévu qu'il monte sur le toit, oui bien, c'est bien ça, sur le toit du stade Vélodrome avec la flamme olympique en main pour bien sûr les photos, pour les caméras et aussi pour surplomber en quelque sorte la ville tout là-haut. Et il y a d'autres célébrités bien sûr qui sont attendues, je pense notamment à des stars de l'Olympique de Marseille dans les années 80 et 90, Jean-Pierre Papin, Éric Dimeco qui sera aussi l'avant-dernier relayeur et donc Didier Drogba qui sera le tout dernier relayeur et qui aura le privilège d'allumer le chaudron dans 1h20 à peu près.
Oui, ce chaudron, hein, vous m'aviez expliqué, il est allumé chaque soir en fait, c'est-à-dire ça conclut une journée de parcours de la flamme, et ce n'est pas dans le Vélodrome mais autour du Vélodrome. Baptiste Coulon, une question encore, parce que à l'ombre du Vélodrome on pense forcément à l'Olympique de Marseille, et j'imagine que l'Olympique de Marseille est un peu dans tous les esprits aujourd'hui. Il doit y avoir des maillots aussi sur ce parcours parce qu'il y a un match quand même important pour l'Olympique aujourd'hui.
Oui, complètement, Annie. D'ailleurs, évidemment, ce match-là, il est dans toutes les têtes, et tous les supporters avec qui je parle là depuis tout à l'heure me disent « D'accord, c'est très bien cet allumage du chaudron, mais pour que la fête soit complètement belle ce soir, il faut arracher évidemment la victoire face à l'Atalanta Bergame pour se qualifier pour la finale de l'Europa League. » Ce que beaucoup de supporters me disent aussi, c'est que ils espèrent que toute la ferveur qu'il y a autour de Marseille depuis un ou deux jours, Marseille qui est sur les télévisions du monde entier, qui montre aussi son savoir-faire en matière d'animation, et bien que ce savoir-faire va aussi porter les joueurs de l'OM de l'autre côté des Alpes ce soir, du côté de l'Italie, que cette ferveur leur sera arrivée jusqu'à leurs oreilles pour les porter et pour arracher cette victoire qu'ils attendent évidemment. Quand on parle avec les supporters aussi, quand on joue un peu au jeu des pronostics, le score qui revient le plus, c'est 2-1 pour Marseille. Donc ils sont confiants parce qu'ils voient bien une victoire de l'OM à la clé, mais victoire étriquée, en tout cas ils imaginent bien une victoire. Et puis ce qu'on peut dire aussi peut-être, c'est qu'il y en a déjà qui sont sur place, évidemment, des supporters. Je pense notamment au groupe de supporters des South Winners, qui est l'un des nombreux groupes de supporters de l'OM. Ce sont eux qui avaient préparé ce tifo géant qui a été élevé hier soir au moment de l'entrée du Bellem dans le Vieux-Port de Marseille. Un tifo qu'ils avaient préparé jour et nuit depuis 2 semaines. Ils sont déjà sur place. Ils sont partis dès hier soir après le concert de Soprano sur le Vieux-Port. Et les supporters qui sont là devant moi, qui n'ont peut-être pas forcément eu la chance de pouvoir aller jusqu'à Bergame ce soir, jusqu'à l'Atalanta Bergame, ils vont suivre évidemment le match comme de coutume au niveau du Vieux-Port, dans les bars qui retransmettront le match.
Eh bien, bonne soirée alors à l'ombre du Vélodrome. Notre salut à Didier Drogba, et puis bonne continuation, Baptiste Coulon. Bon match avec les Marseillais, alors avec les supporters beaucoup, qui sont nombreux autour de vous. Merci beaucoup. Étienne Moati, on a vu des images absolument magnifiques hier de cette ville. Il faut dire qu'il faisait beau en plus. Le petit mistral qui soufflait aidait à éclaircir le ciel, des magnifiques images aujourd'hui encore, ne serait-ce qu'à la une de votre journal, l'équipe. Et c'est vrai que Philippe aime bien dire souvent, Monsieur Philippe, que la France n'est pas un pays sportif, machin. Mais en tout cas, là, on a vu une ferveur, et tout s'est mélangé, en fait, c'est-à-dire et le populaire et la joie. On a vu des chanteurs, des rappeurs. Et puis, il y a l'Olympique de Marseille quand même, et cette ferveur en tableau, derrière tout ça.
Oui, et surtout, c'était pas gagné d'avance. Pour l'instant, on sentait quand même pas vraiment naître cet esprit olympique, cette ferveur autour de ces Jeux qui sont finalement lointains et qui paraissaient lointains, avec surtout beaucoup de polémiques financières, écologiques, politiques, etc. Et puis finalement, on se rend compte que les gens attendent ça. Et à Marseille, c'était pas inattendu, parce que bon, Marseille est capable de grandes ferveurs, mais là, pour le coup, on en a une véritable. Avec quelque chose de très bon enfant qui a fonctionné, même s'il y a eu la petite polémique Jules. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si c'était la personne la plus appropriée pour ça, mais finalement, c'était pas grave, et ça a été balayé par une espèce d'enthousiasme absolument général, et puis ça s'est très bien passé, faut le dire.
Oui, et puis Philippe, cette mise à l'honneur quand même des footballeurs de l'OM, des anciens, des stars, on pense à Jean-Pierre Papin, bien sûr, sûr, mais aussi Basile Boli qui est resté dans les cœurs, Didier Drogba, c'est aussi Eric Dimeco et bien d'autres, des supporters. Hein. Il y avait une vieille supportrice, Colette Cataldo, de 82 ans, qui a elle aussi porté la flamme. Et cette mise en valeur de l'OM, alors je ne sais pas si c'est parce que des autorités apprécient l'OM aussi à Paris, mais en tout cas, ça faisait plaisir à voir finalement pour ce club et pour cette ville où ce n'est pas toujours simple.
Oui, et puis en plus, ce n'était pas une évidence, puisque effectivement, les grands sports olympiques, on le sait, le football n'en fait pas vraiment partie. Donc
même s'il en fait partie depuis 1900, on avait cherché l'autre fois.
Oui, il y a toujours eu un tournoi de foot, mais c'est pas l'essentiel des Jeux olympiques. Ça n'a jamais été quelque chose de fondamental lors des Jeux olympiques. Et donc, c'était pas forcément une évidence que ce soit cet aspect du sport à Marseille qui soit mis en vedette. Et de ce point de vue, c'est réussi. On se rappelle quand même que parmi les polémiques qu'évoquait Étienne, il y en avait l'une des plus ridicules. Ça avait été de dire on veut bien qu'il y ait les matchs de foot au stade Vélodrome, mais on va quand même pas marquer Paris dessus quand même, parce que Paris 2024,
Paris 2024.
Évidemment. Bon, voilà, les JO sont à Paris. Quand on voit ce niveau de polémique, on pouvait être un petit peu inquiet.
On est rassuré.
Moi, j'ai toujours coutume de dire que de toute façon, les Français ne voient jamais l'événement tant qu'il n'est pas là. Et puis quand il est là, enfin, ils se disent finalement, c'est pas mal d'avoir organisé l'Euro, la Coupe du Monde et les JO maintenant.
Et en plus, cet sublime bateau qu'est le Belém, le trois-mâts qui menait
très
un peu la danse. Et vraiment, c'était une très belle idée et très bonne idée. On parlait de l'OM, et bien évidemment, on continue sur ce chapitre, l'OM qui est donc à Bergame. On va y aller.
Je pense qu'il y a beaucoup de positifs dans cette première demi-finale. On va se tuer pour obtenir ce qu'on veut.
On veut aller en finale. On va le faire aussi pour eux parce qu'ils le méritent. Et encore un grand merci à nos supporters.
La frappe de Mbemba. Une frappe furieuse.
Là où je vous attends, les gars. C'est la leçon que vous allez leur donner.
C'est pas qu'un club, c'est une ville entière qui joue une demi-finale de Coupe d'Europe. Personne ne peut nous empêcher de rêver.
Oh, c'est pas une leçon de football qu'on va donner, les gars. C'est une leçon de vie.
Soirée de haute importance pour l'Olympique de Marseille, avec en jeu donc une place en finale de Ligue Europa. Vous l'entendiez, Baptiste Coulon le disait, à Marseille, on attend l'heure du coup d'envoi. L'OM qui jouera le match retour face à l'Atalanta à Bergame. Allons d'abord d'ailleurs fureter un peu dans cette cité italienne. Elle est historique, elle n'est pas en bord de mer comme Marseille, mais on dit qu'elle est très belle à 50 km de Milan, où se trouve déjà, alors non pas un supporter, mais notre envoyé spécial qui hume l'air depuis hier soir, et quelle chance. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors Thomas, racontez-nous Bergame, ses rues, son stade.
Bah déjà, la première chose qu'on remarque en se baladant aujourd'hui à Bergame, c'est qu'on tombe sur des supporters de Marseille, mais pas vraiment les cortèges, vous savez, qu'on a l'habitude de voir à l'extérieur, un petit peu houblonnés, etc. Non, simplement des supporters avec le maillot de l'OM. Et puis, l'appareil photo dans la main, c'est un petit peu plus la grande débonnetta du cinéaste italien Sorrentino, si vous avez la référence. Et c'est vrai qu'elle a énormément de cacher cette ville de Bergame. Vous passez par des petites ruelles, puis sous de grandes arcades, il y a quasiment un bâtiment historique à chaque carrefour. Enfin, même le stade d'ailleurs est une petite œuvre d'art, il est en travaux, c'est vrai, mais vous voyez ses fondations, vous voyez une sorte de grande porte en bois et en fer forgé, des fresques, des sculptures. Enfin bon, voilà pour le décor. Et puis vous savez aussi qu'Annie, cette ville, elle n'est pas très grande, elle est divisée en deux parties, la partie basse de la ville et puis la città alta, donc la partie la plus haute qui est, on va dire, celle la plus raffinée. Mais pour ça, il faut chausser de bonnes chaussures et grimper un petit peu pour atteindre les sommets. Et c'est un petit peu la métaphore pour l'OM ce soir. S'ils veulent aller tout en haut du raffinement européen, il faudra mettre le bleu ciel de chauffe.
Eh oui, il faudra être bon et être au fait surtout de l'événement. On vous entend un peu mal, Thomas, mais on a bien compris le charme italien de cette ville. Alors, comment décrocher une place en finale pour l'OM qui, au coup d'envoi du match, eh bien, on s'en souvient, du match aller, n'était pas favori hein, de cette demi-finale, mais qui joue finalement crânement sa chance puisque le match aller s'était soldé sur le score de 1-1 et on se souvient, on l'a entendu tout à l'heure, ce but qui a tout changé dans cette demi-finale aller et qui était le but de Chancel Memba. Pour l'entraîneur des Olympiens, on va l'écouter, Jean-Louis Gasset, il n'y a pas 36 solutions, il est à votre micro Thomas Saint-Léger.
C'est le match qu'il faut réussir. Tous les joueurs sont conscients que peut-être ils ne joueront plus jamais une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc ils sont prêts à tout donner. Ils me le disent tout le temps. Je leur dis l'état d'esprit qu'il faut avoir. Celui du match aller ne suffira pas. Il faut encore ce brin d'efficacité en plus pour pouvoir faire cet exploit parce que ce sera un exploit.
Alors même si finalement l'OM a l'opportunité hein, de finale assez régulièrement finalement, parce qu'on se souvient de celle de 2018, Philippe,
oui,
c'était la Ligue Europa.
Je crois que c'est la quatrième finale de ces trois pour l'OM, donc c'est pas rien.
Oui, c'est pas rien, même si évidemment dans l'équipe d'aujourd'hui, il n'y a même sur le banc plus personne de l'époque de 2018.
Non. Avec hein. les lavages, les lessivages tous les ans, on arrive à zéro
Pablo
joueur.
Pablo Longoria s'en est occupé.
Ouais, ouais.
Un chambardement permanent.
Rudy Garcia, évidemment, c'était lui. Il n'est plus là. Et puis, dans l'effectif, bah, c'est pareil. Ça a pas mal mouliné. En tout cas, comment mieux jouer ce soir, comme le voudrait Jean-Louis Gasset? Thomas de Saint-Léger, parlez-nous des raisons d'y croire ce soir pour l'OM, selon vous.
C'est bien d'être optimiste, Annie. Moi, j'en vois plusieurs. Raisons. D'abord, ce sont des petites raisons par-ci par-là, mais c'est vrai que l'OM a été mis au repos par la Ligue de football française, alors que l'Atalanta a joué, elle, lundi. À ce moment-là de la saison, c'est pas mal. Et puis physiquement, justement, ça va bien pour l'OM. Gasset l'a dit hier en conférence de presse. Il a son groupe au complet. On excepte évidemment Valentin Rongier, qui est blessé de longue date. Et puis, les joueurs qui sont non qualifiés comme Pape Gay, sinon tout le monde est là. Tout le monde a travaillé pour être en forme au moment précis, le jour J, c'est-à-dire aujourd'hui donc face à Bergame. Et puis, c'est vrai qu'on parle d'expérience dans ces grands rendez-vous européens. Et je pense que là-dessus, l'OM n'a pas énormément de complexes à faire par rapport à l'Atalanta Bergame. Hein. Vous prenez les effectifs des deux équipes. Certes, il y a beaucoup de qualité côté bergamas, mais côté marseillais, on a des Aubameyang qui est allé en finale de Ligue Europa, Jordan Veretout qui a remporté la Ligue Europa Conférence, alors que côté Atalanta, on doit avoir Scamacca, bien sûr, qui avec West Ham a gagné la Ligue Europa Conférence, mais sans être un acteur majeur non plus de ce titre. Donc voilà, l'expérience dans les grands rendez-vous, plutôt côté marseillais, avantage Marseille ce soir, je dirais, voilà, pour conclure les raisons d'y croire.
Etienne Moati, vous aussi, vous avez des raisons de croire en l'OM?
Oui, bien sûr. Avant le match aller, on avait le sentiment qu'il y avait une ou deux classes de cas entre les deux équipes, parce que l'Atalanta Bergame, c'est une équipe qui a des références, surtout sur les dernières saisons, qui a mis en place un système de jeu très intéressant.
Elle, avec le même entraîneur depuis des années.
Exactement, qui a beaucoup d'impact.
Gasperini.
Qui a un jeu collectif extrêmement léché, qui est capable de mettre énormément d'intensité dans les matchs. Et puis, on voyait Marseille dans le ventre mou du championnat de France, avec un style de jeu qu'on a un peu de mal encore aujourd'hui à définir, alors qu'on arrive à la fin de la saison.
Toujours.
Avec un enchaînement
c'est normal,
de matchs.
Quatre entraîneurs.
Voilà, un enchaînement de matchs qui fait que bon, l'effectif semblait un petit peu physiquement usé, un peu au bout du rouleau. Et finalement, ils font un match formidable au match aller, avec une intensité, avec une capacité à se surpasser, celle que n'a pas réussi à avoir le Paris Saint-Germain, par exemple, dans sa demi-finale. Donc, s'ils mettent l'intensité qu'ils ont mis au match aller, avec Aubameyang en contre, moi je pense que c'est tout à fait possible.
Mmh. Philippe Doucet, qu'en pensez-vous sur cette équipe qui a été mise au repos? C'est vrai qu'en plus, on se souvient que l'Atalanta arrivait avec ce trophée qui était le scalp de Liverpool.
Ouais.
Il venait d'éliminer Liverpool. Alors, on connaît les conditions, on sait comment ça s'est fait, le contexte, on va dire,
peut rappeler.
Ils étaient allés gagner 3-0 quand même du côté d'Anfield. Et là, peut-être qu'elle n'est pas aussi majestueuse que ça, cette équipe de l'Atalanta.
Non, bah c'est une équipe qui, quand même, qui joue la 5e, 4e, 5e place en Italie. Donc c'est une,
mais c'est mieux que la 7e en Ligue 1, non ?
Absolument. C'est une bonne équipe. Ce n'est pas non plus irrespirable et intouchable. c'est tout à fait touchable si l'OM est capable de jouer au-dessus du niveau que l'OM a montré cette saison. Car l'OM est une équipe, Étienne le disait, c'est difficile d'évaluer son style. C'est une équipe sur... Par moment, sur 10-15 minutes, on a l'impression que c'est une excellente équipe. Puis le quart d'heure suivant nous fait complètement déchanter. À l'intérieur d'un match, c'est une équipe assez variable. Alors on a, du coup, le match aller, d'ailleurs, m'a plutôt plu parce qu'il a été enfin un peu cohérent et sur la durée. Ça ne paraissait pas... les pièces avaient l'air de s'emboîter enfin et parce qu'il y avait une volonté féroce et qui anime ce club. Et on sait qu'il vit pour l'Europe, ce club. Et on l'a vu cette saison, où le championnat est très décevant. Mais à l'arrivée sur l'Europe, oui, ils ont répondu présent. Ils ont été malheureux de ne pas jouer la Ligue des Champions. Ils auraient dû se qualifier normalement contre le Panathinaikos en début de saison. Mais à l'arrivée, ils ont fait vraiment un très beau parcours en Europa League. Et c'est bien aussi.
Et devrait avoir les atouts. Alors, vu du côté des adversaires, l'équipe de l'Atalanta, elle dit, parce qu'on vous entendait, Thomas, tout à l'heure, parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Évidemment, il est le meilleur buteur de la compétition. Il est le meilleur buteur de l'OM actuellement. Mais écoutons l'un des joueurs et des bons joueurs de cette équipe de l'Atalanta, Sead Kolosinac, le Bosnien. Eh bien, il dit qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur Pierre-Emerick Aubameyang.
Nous connaissons tous les qualités de Pierre-Emerick Aubameyang. Il nous montre sa valeur depuis de nombreuses années et dans différents championnats. Il est toujours extrêmement dangereux. C'est un très grand joueur. Mais lors du match aller, nous avons très bien su le contenir. Il ne faut d'ailleurs pas seulement se méfier de lui. Il faut se méfier de toute l'équipe. Ils sont tous très dangereux, surtout devant. C'est une demi-finale. Il reste 90 minutes ou 120 minutes peut-être avec la séance de tir au but. Il ne reste qu'une seule rencontre et ensuite c'est la grande finale. À ce stade de la compétition, l'objectif est clair. Il est forcément d'aller au bout.
Thomas de Saint-Léger, c'était Jordan Veretout qui était hier et qui connaît bien l'Italie, ancien de la Roma, qui était en conférence de presse, donc qui est venu parler publiquement. Mais dans les têtes, j'imagine, d'un peu tout le monde, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur, qui n'a pas marqué d'ailleurs au match aller. Il a peut-être une revanche à prendre.
Bah, évidemment, c'est l'atout numéro un de Marseille, ce qu'on a besoin de le préciser. C'est vrai que Jordan Veretout a dit hier l'occasion qu'il a manqué à l'aller. Vous vous rappelez ce face-à-face face au gardien de l'Atalanta où cette frappe trop croisée du pied gauche, cette occasion-là, il la mettra demain. Donc c'était hier qu'il nous disait ça, évidemment, Jordan Veretout. On fait confiance, évidemment, à Aubameyang. On fait confiance à son atout maître. On sent de toute façon qu'il y a de la confiance dans ce groupe, de la détermination. Quand on a assisté à l'entraînement, les 15 petites minutes ouvertes aux médias hier soir, on s'est tous aperçus qu'on avait en face une équipe extrêmement déterminée pour un début d'entraînement, si vous voulez, des passes très appuyées, beaucoup de joueurs qui donnaient de la voix, c'était très sonore. Enfin, en laissant un petit peu habiter, ils ont emporté un peu de flamme avec eux, voilà.
Ah bon. Alors, ça devrait leur donner de l'énergie. Étienne, c'est vrai que Kolosinac, le Bosnien de l'Atalanta, dit on ne va pas se focaliser uniquement sur Pierre-Emerick Aubameyang. On a envie de leur dire, vous devriez quand même.
Oui, bon, enfin, ça c'est des phrases toutes faites que prononcent les footballeurs lors des conférences de presse, mais en fait, ils n'en pensent pas un mot.
C'était pour le plaisir de l'entendre.
Évidemment qu'il y a une force offensive à Marseille qui s'appelle Aubameyang, parce que sinon, autour, en fait, les autres attaquants ne marquent quand même pas énormément. Donc, pour le coup, et c'est une très bonne chose. Je pense que la Ligue, en tout cas pour Marseille, est reportée son match qu'elle n'ait pas eu à jouer. Donc, elle est un peu de temps entre les deux rendez-vous, parce que l'effectif de Marseille était un petit peu en train de s'user. Et Aubameyang a beaucoup joué. Il a quoi, 34 ans, Aubameyang, et franchement, de la fraîcheur, ça fera du bien pour ce soir.
Finalement, le côté offensif, offensif, même si c'est un défenseur, ancien prix Marvin Vianfo et Chancel Mbemba le Congolais qui avait marqué au match aller. C'est quand même le côté offensif, et il est pas mal finalement du côté, même si tout le monde ne marque pas, mais on a quand même Sarr, on a quand
talents.
Même voilà, Ndiaye qui sont là et qui bousculent au moins leurs adversaires.
Oui, oui, puis il y a Harit qui est un joueur très créatif, oui. Très irrégulier, et c'est un peu un symbole d'ailleurs de cet OM.
Sans doute.
Parce qu'il est aussi capable de faire gagner des matchs et puis d'être totalement absent. Ça a été un peu un symbole de cet OM à deux vitesses, à trois vitesses, selon les matchs. La seule constante, effectivement, qu'on a eue tout au long de la saison, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué tout au long de la saison, même s'il a eu un début un petit peu difficile. Mais
un peu compliqué.
Et encore, il marquait en Coupe d'Europe, donc ça allait malgré tout. Et lui a été la valeur sûre. Le reste, Sarr de temps en temps, Harit de temps en temps, Illiman Ndiaye de temps en temps, trop peu fréquemment, trop irrégulièrement, mais avec un potentiel. Ce qui veut dire que peut-être ce soir, ils vont marquer trois buts et ces attaquants seront décisifs. C'est une hypothèse qu'on souhaite, évidemment, mais on n'en est pas vraiment sûr.
Et puis
c'est ça le problème.
Si Paulo Lopez, le gardien, si Bellardi et Chancel Mbemba aussi...
Ah, mais il y a des joueurs, dans cette équipe.
Ah, oui, qui se sont révélés en plus. Bellardi, je pense qu'au début de la saison, on n'attendait peut-être pas forcément.
Bon, disons qu'il avait été très décrié. Mais enfin, il sortait de Dortmund, il avait... des capacités que tout le monde...
En finale.
C'est un joueur qui a énormément progressé, là, pour le coup. Sur l'effectif marseillais, c'est peut-être celui qui est en train de s'affirmer, même comme étant un leader. Ça, il avait déjà un petit peu la voix, etc. Mais,
Argentin.
Un Argentin, on est habitué, mais aujourd'hui, c'est un vrai très bon défenseur central.
Merci beaucoup, Thomas de Saint-Léger, d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure pour commenter le match, et il y aura une meilleure qualité, chers auditeurs. N'est-ce pas, Thomas?
Avec plaisir. Merci Annie et bonne émission à vous. Allez.
Merci. Salut. Thomas. Donc, heure de la retransmission, 20h57, 18h57 temps universel. Et Marc Libra sera en studio avec Sofiane Amazian. Il y a une autre demi-finale d'ailleurs en Ligue Europa. On va l'aborder. Les Louves débarquent dans la Roure et c'est la Roma, bien sûr, qui arrive à Leverkusen. Le Bayer reçoit l'équipe qu'il avait gagnée, il l'avait battue, pardon, en Italie la semaine dernière sur le score de 2-0. Le Bayer, une équipe qui effectue un incroyable parcours cette saison, déjà sacrée championne en Bundesliga et qui veut continuer à rester invaincue. David Lortolari nous parle de cette équipe. Incroyable.
Au fil de la saison, c'est devenu de plus en plus difficile d'imaginer que le Bayern trébuche. Il y a eu des moments où ça a été compliqué, il y a eu des moments où ça a été improbable. Dans cette compétition-là, Annie, précisément, l'adversaire qu'on imaginait peut-être le plus éloigné du Bayern, c'est lui qui l'a mis le plus en difficulté, Karabakh-Agdam, sur deux matchs, à l'aller et au retour, et le Bayern s'en sort dans les arrêts de jeu. Et c'était un moment de la saison, souvenez-vous, où le Bayern commençait à gagner dans les arrêts de jeu. C'est devenu une espèce de litanie pour les adversaires.
On leur a donné un surnom. Le Leiter Leverkusen, oui. Désormais, hein, marque Leiter, on marque tard.
Oui, absolument. Il y a des statistiques incroyables avec un nombre de points, plusieurs dizaines de points pris au total dans toutes les compétitions, Ligue Europa et Championnat, à partir de la 80e minute et un nombre non négligeable aussi après la 90e. Et on a la sensation que ce Bayern, surtout Annie, parce qu'il faut revenir au contenu avant tout, maîtrise beaucoup, beaucoup de choses. Il y a toujours un coup d'avance. Il y a un milieu de terrain très bien organisé autour de Granit Xhaka. Il y a une défense meilleure que jamais. On pourrait citer chacun des individus, dont des joueurs du continent africain qui sont meilleurs que jamais. Et puis devant, il y a toujours une solution. Si ce n'est pas un des trois attaquants de pointe, ce sont les joueurs de côté. Si ce ne sont pas les joueurs de côté, c'est un joueur venu de l'arrière, comme Robert Andrich, encore dernièrement, un but improbable dans les arrêts de jeu qui sauve une possible défaite de Bayer Leverkusen. Donc la sensation vraiment, au fil des semaines, qui s'est accentuée à Nice, que cette équipe ne pouvait pas perdre, ne pouvait pas lâcher quoi que ce soit.
Monsieur Philippe, est-ce qu'on peut dire que le Bayer est déjà en finale ?
Non, bien sûr que non, parce qu'il faut se méfier de plus en plus avec l'étiquette à la maison qui est de moins en moins respectée. On a vu des tas de victoires à l'extérieur.
Et il y a deux jours.
Oui, ça arrive maintenant très fréquemment. Et ce n'est pas pour rien que l'UEFA, désolé pour ceux qui tiennent au romantisme du but à l'extérieur, si l'UEFA l'a supprimé, ce n'était pas une idiotie comme ça. Et pour lutter contre le modernisme, c'était simplement que le jeu a changé et qu'aujourd'hui, à l'extérieur, les équipes peuvent être plus dangereuses parfois qu'à domicile. Donc il faut se méfier bien évidemment, mais c'est vrai que le Bayer Leverkusen affiche une sûreté, une santé offensive assez, assez impressionnante et qu'on a du mal à imaginer que la Roma qui est un peu en difficulté sur cette fin de championnat, qui commence à déjà avoir du mal pour préserver sa cinquième place, ce sera déjà difficile. La cinquième qui est qualificative en Ligue
Serie A,
des Champions, hein. Oui, parce que la Serie A est dans les deux premiers pays du classement UEFA cette saison. Donc au grand mérite, mais cette Roma, elle est un peu sur le fil. Je la sens pas capable de cet exploit, mais évidemment, elle peut nous surprendre.
Miseriez-vous sur un exploit de la Roma, Étienne Moati?
Non.
Non.
Non. Cette équipe de Leverkusen, je pense qu'on mesure même pas encore.
On en parle régulièrement,
régulièrement.
48 matchs, hein, il me semble, invaincu.
Mais c'est absolument incroyable. Je veux dire, j'étais moi pas capable de citer trois joueurs de cette équipe de 11 de départ au début de la saison. Et quand je dis trois, c'est pour me vanter un peu. Et qu'aujourd'hui, quand on parlait des invincibles d'Arsenal, là pour le coup, on peut faire la litanie de tous les joueurs qui étaient dans cet effectif-là. Et c'était des joueurs de classe mondiale. C'est absolument pas le cas des joueurs qui sont à Leverkusen.
Tu connais l'entraîneur, ça c'est sûr.
Et voilà, on le connaît tous. Ça, oui.
Ce parcours-là, il est absolument prodigieux. On ne mesure absolument pas encore ce qu'ils sont en train de faire.
S'ils vont jusqu'en finale, je crois que c'est 52 matchs d'invincibilité. Avec le championnat, il en reste 3. Et ensuite, eh bien, ça serait 53. On a cherché dans les statistiques. Alors, il y a des vieilles statistiques où il y en avait un qui avait 104, mais c'était sur plusieurs saisons, enfin, mais sur la même saison. Mais on aura l'occasion d'en parler. Je vous promets, Étienne, on y reviendra parce que c'est assez fascinant ce que fait le Bayern. Allez, on continue parce que le Real, c'est aussi fascinant.
À gauche, Vinicius, bien servi, Vinicius. Frappe de Vinicius, on a eu qui relève. Nacho avec Rudiger, le centre. Oh là 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 là. C'est toujours revu. Oh, le but est validé.
Il est extraordinaire. Cette équipe est folle.
C'est historique. Ce Real est fou.
Le Real est en finale. Ça rime, hein, finalement, c'est facile. Hier soir, dans un stade Bernabéu débordant, hein, avec ses tribunes qui maintenant montent si haut. Elles étaient remplies jusqu'aux toits fermés pour l'ambiance. Les Merengues ont fait frissonner, trembler leur public dans un scénario parfait pour l'adrénaline. On a pourtant cru que les joueurs allaient regretter leurs multiples occasions raté, car le Bayern a ouvert la marque à la 68e minute, mais le Real a renversé la situation, vous l'avez entendu. Et on va écouter le double buteur de cette soirée, parce que c'est une histoire incroyable. Double buteur, c'était José Lu.
On rêve toujours d'être là au bon moment. Le premier but, c'est parce que j'étais prêt, que je suivais le jeu. À cet instant, ils étaient fatigués et ils défendaient de plus en plus bas. Je pense que l'on rêve tous de vivre des soirées comme celle-ci. En tant qu'attaquant, on rêve aussi de marquer des buts. Et s'ils sont comme ceux d'aujourd'hui, c'est encore plus bon. Nous avons gagné, nous sommes en finale. En fin de compte, les matchs se gagnent avec les sentiments et les tripes. L'entraîneur l'a dit avant le match. Ces matchs, on les arrache avec le cœur. Et je pense que Madrid, on a beaucoup de cœur.
C'est l'histoire dans l'histoire, José Lu, parce que finalement, l'homme du match, hier, on l'a vu avec son trophée, il était tout content, c'est Vinicius, que tout le monde connaît et que tout le monde admire. Mais malgré tout, José Lu, le remplaçant qui rentre, le Real a ce numéro 9 sur le banc. Et c'est une histoire incroyable, absolument,
c'est
Philippe.
C'est une histoire géniale, c'est un joueur qui a été formé au Real, mais qui a fait une carrière... relativement moyenne, enfin correct, oui. Mais relativement moyenne un peu partout. À l'heure actuelle, il est en deuxième division, je ne sais même plus dans quel club d'ailleurs.
Il dépend de l'Espagnol, l'Espagnol de Barcelone.
L'Espagnol de Barcelone, ah, ouais. Ouais, c'est ça. Il est à l'Espagnol et il est prêté. Il a été prêté déjà l'année dernière et là, il a été prêté au Real Madrid.
Un prêt payant de 500 000 euros.
C'est pas cher, voilà. pour ce qu'il a apporté. Oui,
Pour ce que paye le Real en général.
Et c'est assez hallucinant. C'est une histoire comme le foot peut en réserver. C'est bien de temps en temps qu'il y ait des clubs comme Dortmund pour rappeler que le foot, ce n'est pas que l'argent, etc. Mmh. Et puis qu'un Rossellou vienne au secours du Real Madrid, le club des grandes stars, des plus grandes stars du monde, c'est réconfortant aussi.
Il est espagnol, il est désormais international. Hein, Rossellou,
il a 34 ans, un truc comme ça.
Oui, il a 34 ans et il a été convoqué pour ses premiers matchs très très récemment. Donc c'est une récompense absolument.
Et il marque en sélection.
Et aussi, exactement.
Et il marque aussi beaucoup avec le Real parce qu'il joue très peu, mais il marque beaucoup.
Il rentre et marque.
Son ratio incroyable.
C'est une histoire qui est incroyable, mais c'est une histoire que je dirais qui devient presque un tout petit peu moins incroyable ces derniers mois parce que c'est un joueur qui se révèle à un très haut niveau sur le tard. Alors c'est rare, à ces âges-là, normalement, on est plutôt en train d'essayer de penser à sa fin de carrière et atterrir dans un club.
Au buteur, comment s'appelait le buteur de Bilbao? Qui a eu une fin de carrière fantastique à Ursaïs.
C'est un nom à peu près comme ça. Donc, il est aujourd'hui en sélection, titulaire. Enfin, c'est un parcours assez incroyable.
Incroyable. Et alors, un scénario incroyable, Étienne. Hier,
incroyable et classique à la fois.
Comme d'habitude.
Oui, alors, c'est vrai. Et avec le Real, on les appelle pas les Later Real, mais on pourrait aussi leur dire de renverser la tendance comme ça et puis de se dire, mais il va encore se passer quelque chose. On est à la 87e minute, on se dit, il se passe quelque chose. Mais surtout, peut-être Étienne, Manuel Neuer fait un match parfait jusqu'à la 88e minute.
Oui, c'est ça.
Où il relâche ce ballon et Rossellou est là, le numéro 9.
On avait retrouvé l'immense Neuer qui était absolument infranchissable.
Dans toutes les parades possibles.
On a l'impression que c'est impossible de lui marquer un but et qu'il va amener le Bayern en finale. Et puis, il fait cette boulette parce que c'en est une. Vraiment, il relâche un ballon facile et derrière, tout s'enchaîne pour le Real. Je dirais comme d'habitude, avec on égalise, on prend l'avantage. Et pour que le match soit absolument historique et fou, un peu comme tous les matchs du Real, la polémique énorme de fin de match avec...
On va y venir.
Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Ouais.
Oui. Alors, simplement, j'aurais voulu aussi qu'on s'arrête peut-être sur les changements auxquels procède Thomas Tuchel, parce qu'il va peut-être vite en besogne pour conserver le résultat, et notamment en sortant Harry Kane, Philippe, parce qu'on va l'entendre, sa colère, après, mais qu'il s'est trompé aussi.
Peut-être, mais tout le monde peut juger. Après, c'est toujours difficile, parce lui vit avec son groupe toute la semaine. Toutes les semaines, et il sait qu'un tel est fatigué et qu'il faut le changer ou pas. Il fait passer l'équipe à 5 parce que le Real pousse de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de pression sur la défense centrale qui n'est pas extraordinaire en plus. Donc il sent qu'il y a besoin de faire ça. Est-ce qu'il le fait au bon moment? Est-ce que c'est bien de le faire parce que ça donne un signal à l'adversaire de presser de plus en plus haut et de pousser encore plus? Est-ce que c'est bien de faire sortir Harry Kane, qui est sûrement très fatigué à ce moment-là? Fatigué, il n'aurait pas gardé mieux le ballon que Choupo-Moting? Toutes ces questions-là, c'est assez facile toujours pour nous de dire après match. Même pour eux d'ailleurs, je pense qu'un entraîneur après match, il pourrait débriefer et se dire « Bon, là je me suis gouré, là j'ai fait ci, là j'aurais dû faire ça, etc. »
Vous en connaissez qu'ils fassent ça?
Ils ne le font pas en conférence de presse. Mais non. Je pense qu'eux, dans leur bureau, ils se disent
« Tout seul avec eux-mêmes. »
Tout seul avec eux-mêmes. Mais c'est vrai que ça paraît... Ça paraît des erreurs, mais bon, encore une fois, il est plus proche de son équipe que nous.
Mm-hmm. En tout cas, donc, on va y venir à ce fait de match.
Et puis d'autres ont été renversés au Real dans des fins de match comme ça. Mm-hmm. Et peut-être qu'ils n'avaient pas fait d'erreur et ils ont été renversés quand même.
Un fait de match donc qui a évidemment et qui fait toujours beaucoup parler et évidemment sur ces satanés réseaux sociaux, c'est cette décision de l'arbitre Marcignac, nous on le connaît bien, on se souvient de certaines décisions qu'il avait prises aussi en finale de Coupe du Monde, n'est-ce pas? Et là, il a sifflé un hors-jeu sans laisser l'action se terminer. Pour Thomas Tuchel, ce n'est pas une décision normale.
I think it's pretty clear and cannot be, in my opinion, any doubt that it's against every rule of modern football.
Selon moi, il n'y a aucun doute que cette décision va à l'encontre de toutes les règles du football moderne. La première grosse erreur vient du juge de ligne. Il a fait cette erreur sur une action dans le temps additionnel. Lever son drapeau sur cette dernière action, quand tu n'es pas sûr qu'il y a hors-jeu à 100%, il faut vraiment oser avoir le courage dans une situation comme ça. C'est une énorme décision, et c'était la mauvaise. L'arbitre derrière a encore une chance quand il voit ça, et que l'on gagne le deuxième ballon, que l'on gagne le rebond, que l'on tire dans les 5 secondes qui suivent, de ne pas siffler. Et là, il prend la décision de siffler. C'est contre toutes les règles, je suis désolé. On l'accepte, bien sûr, on a perdu, c'est comme ça. Mais ça ne serait pas arrivé si ça avait été en faveur du Real Madrid.
Étienne Moati, est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il y a encore un arbitrage favorable pour le Real Madrid ?
Alors, Thomas Tuchel, il a l'habitude d'être véritablement excessif. Là, pour le coup, de mon point de vue, il ne l'est pas. C'est une erreur, mais énorme, colossale erreur qui a été faite hier soir. C'est absolument incroyable. Pas parce que c'est une erreur d'arbitrage, mais parce que c'est une erreur technique majeure.
De méthode. Erreur de méthode.
Exactement. C'est clairement établi maintenant depuis plusieurs saisons qu'on laisse l'action se terminer et qu'on voit après si il y avait hors-jeu ou pas hors-jeu.
Qu'on peut imaginer que c'était dans la précipitation ? On était à la 14e minute ou 13e minute
de temps
additionnel. Il y en avait eu sans arrêt parce que des joueurs avaient des crampes, se blessaient, rentraient, sortaient.
Je dirais que c'est même encore pire parce que c'est à ce moment-là du match. D'ailleurs, à aucun moment on est censé prendre des risques, mais à ce moment-là du match, il n'y a aucun risque à prendre. L'arbitre de touche ne doit évidemment pas lever son drapeau, laisser l'action aller jusqu'au bout. Je dirais même que l'arbitre central, même s'il voit son arbitre de touche lever son drapeau, mais pourquoi est-ce qu'il siffle immédiatement comme ça ?
Parce que tout le monde s'arrête.
C'est une deuxième erreur, mais évidemment, tout le monde s'arrête et derrière, il n'y a plus de possibilité d'aller voir le VAR. Si vous êtes aujourd'hui bavarois, que vous avez égalisé dans les arrêts de jeu après avoir été repris comme ça par le Real et que vous êtes sorti et que vous n'allez pas en finale de Ligue des Champions, enfin, je vous laisse imaginer c'est d'arriver à un club français, ce qu'on dirait aujourd'hui.
Donc, il y a eu erreur et finalement, le Real est là
non,
par
alors,
chance.
Là où il faut nuancer ce que dit Étienne, qui est tout à fait juste, c'est une véritable erreur de méthode. C'est tout à fait choquant que l'assistant ait levé ce drapeau. C'est une véritable erreur. Il a entraîné M. Marcignac, qui a dû penser, parce qu'il lève le drapeau quand vraiment le hors-jeu est totalement évident. Et que ce n'est pas la peine d'aller laisser continuer une action et qu'un attaquant se fracasse
surtout
sur un gardien de but.
On n'est pas près de la surface de réparation à ce moment-là,
oui,
précisément.
On est
entre la ligne médiane et la surface.
On est pratiquement dans la surface. Mais disons que c'est un ballon douteux. C'est-à-dire d'ailleurs, c'est la seule nuance que j'apporterai à ce que dit Étienne, parce que la faute, elle est réelle. On ne comprend pas ce que... on ne comprend pas, même si ça arrive de temps en temps. On voit parfois des assistants qui lèvent trop tôt et puis les arbitres ont le réflexe de suivre tout de suite parce que l'arbitre, il se dit, bon, s'il lève, c'est qu'il y a 2 mètres. Quoi. Mm-hmm. Et du coup, j'exonère un peu l'arbitre parce que si l'autre lève, il se dit, bon, c'est qu'il y a 2 mètres, il n'y a pas de problème. Mm. Et là où je nuance un peu ce que dit Étienne, c'est qu'en fait, tout le monde a... Les joueurs arrêtent un peu de jouer parce qu'ils sifflent très tôt, effectivement. Oui. Donc, on ne sait pas forcément s'il y aurait eu but.
Bah non.
Et là où je nuance aussi, parce que...
Bon, ça fait beaucoup de nuances, tout ça.
Oui, parce que vous voyez des joueurs qui s'arrêtent quand même, qui ne jouent, jouent pas complètement le coup. Et puis, l'autre nuance, j'ai oublié.
Ça faisait trop de nuances.
Ouais, ça faisait trop de nuances. Ouais.
Non, mais là, on parle quand même d'un arbitre qui est censé être un des meilleurs
arbitres
du monde.
Et
ses assistants avec lui. Pour moi, c'est une erreur colossale. C'est-à-dire qu'il va impacter d'ailleurs la suite de la carrière de Marcignac. Parce que,
son assistant, je dirais.
La sienne aussi, j'en suis persuadé. Hein, parce que vous faites une erreur à un moment donné. Une erreur aussi importante dans un match aussi important, dans des arrêts de jeu qui sont aussi importants, c'est trop.
Oui, donc juste une nuance aussi par rapport à des complotistes qui imaginent plein de choses. Au moment où l'assistant lève le drapeau, on ne peut pas dire que l'action de but soit constituée. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout qu'il va y avoir ça, que le ballon va être récupéré une première fois, puis par un autre joueur qui va tirer. On n'en sait rien du tout. Et donc, on ne peut pas imaginer... Enfin, moi, je n'imagine pas une demi-seconde que ce soit un complot qu'il ait voulu protéger le Real.
Non, il a fait une bêtise.
C'est une grosse bêtise.
Il n'y a pas d'arbitre aujourd'hui acheté par un club ou un autre. Ça, c'est vraiment un fantasme de supporter.
Eh bien voilà, en tout
ça
cas.
Ça a existé dans le temps.
La finale.
Ça a pu exister dans le temps, comme tu dis.
Ça sera le 1er juin prochain à Wembley, donc le stade de Londres, le Real, face au Borussia Dortmund. Pour la quinte, la décima quinta, hein, en fait, pour
ou la
15e peut-être.
Ou la deuxième.
Ou la deuxième, exactement.
Ne pas oublier Dortmund, parce qu'on les a un peu négligés, là.
Ah non, non, on ne les a pas négligés avant-hier soir.
Il y en a qui l'ont négligé. J'en ai entendu plein qui l'ont négligé.
Ils sont morts de les doigts, d'ailleurs.
Ce qu'on ne va pas négliger, c'est la Guinée.
Ah.
La Guinée olympienne. Et oui, la Guinée a sa flamme éclairée par la sienne, la Guinée olympique. Cet après-midi à Clairefontaine, le Sili olympique, confronté à un énième barrage, hein, parce que pour les Africains, ce n'est pas simple, ni pour les Asiatiques d'ailleurs, eh bien, contre l'Indonésie. Le Sili, des moins de 23 ans, a décroché un billet pour participer aux Jeux olympiques de Paris, en version masculine, bien sûr. Écoutons le sélectionneur, on le connaît bien, parce que c'est aussi celui de l'équipe A, Kabadiawara, au micro de Cédric de Oliveira.
Bah, je suis très content, je suis fier parce que comme on le sait, ça faisait depuis 1968 avec une belle génération de joueurs guinéens. Ils étaient allés là-bas au JO, donc voilà, on rentre dans l'histoire un petit peu avec cette génération. On l'a fait à la CAN en passant un tour après les poules et là encore avec 4-5 joueurs qui viennent de l'équipe A, on a su se qualifier tout simplement, même si ce n'était pas beau à voir, on a souffert, on aurait peut-être dû faire la différence un petit peu avant. On est venu ici à Paris pour ça et on est content parce qu'on va revoir Paris d'ici un mois et demi à peu près.
Alors une belle performance, hein. Les vainqueurs, le Sili l'a emporté sur le score de 1-0. Kabadiawara était au micro de Cédric de Oliveira qui est aussi en ligne avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors Cédric, racontez-nous la joie des Guinéens et puis aussi leur match.
Ben, on va commencer par leur match. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Kabadiawara disait que ce n'était pas beau à voir. C'est effectivement ce qui s'est passé.
Il avait prévenu avant, hein, on s'en souvient. Il avait dit, peu importe le style, il faut être à Paris.
Ben, on n'a pas vu un grand match de foot, mais c'est vrai que voilà, à la demi-heure de jeu, il y a eu cette contre-attaque éclair qui s'est terminée par une faute dans la surface et puis ensuite eh bien un penalty indiscutable transformé par Elaïch Moriba, le numéro 10 de la Guinée qui joue aussi chez Léa. Au total, ils étaient 9 hein, parmi les 18 appelés par Kabadiawara, qui les connaît bien, donc, puisque c'est lui le sélectionneur des A. Derrière, il y a eu un deuxième pénalty, mais cette fois que Ba n'a pas transformé sur la base du poteau. La Guinée qui n'a pas montré vraiment son meilleur football, mais qui s'en sort 1-0 face à l'Indonésie. Et eh bien après, effectivement, joie très, très démonstrative de la part du PAF, de la part de la fédération et de la délégation qui était présente, puisque ce sera la première fois depuis 1968 que la Guinée jouera les Jeux Olympiques.
Et on a 4 équipes africaines sur 16, Philippe. Hein, c'est une par groupe et c'est, ouais. une belle performance.
Oui, puis c'est une belle représentation pour l'Afrique quand même, parce que 4 pays, alors qu'il y a 3 pays européens. Là, pour une fois, l'Afrique ne peut pas se plaindre. Elle est très très bien représentée. 4 équipes sur 16, c'est une remarquable représentation et en l'occurrence méritée, puisqu'il y a une place de plus gagnée par la Guinée aux dépens de l'Asie. Et c'est sympa d'avoir la Guinée en plus, parce qu'il y a vraiment des bons joueurs hein, dans cette équipe. Il y a Abibou Camara, il y a Sambasso, il y a Elaïch Moriba dont on a parlé. Donc c'est vraiment une équipe qui est... Il y a Conté également. Enfin, il y a pas mal de joueurs qui jouent dans l'équipe A et qui vont pouvoir être compétitifs dans le groupe de la France, qui plus est.
Oui. Et ben
avec
voilà.
Nouvelle-Zélande et États-Unis.
Et ben Kabadiawara se fera sans doute un plaisir d'être dans ce tournoi des Jeux Olympiques qui commence dans 78 jours maintenant. Merci beaucoup Cédric de Oliveira et bon retour jusqu'à la maison mère. D'ici
merci.
Peu. Merci beaucoup. Il est sur le chemin de Clairefontaine, mais je crois que ça ne circule pas très bien. Beaucoup de gens partent en week-end ces temps-ci.
Et puis il y a ceux qui travaillent comme nous.
Et oui, exactement. Mais nous, on est au rendez-vous. Et d'ailleurs, il y aura une deuxième émission ce soir, mais surtout, il y a la retransmission de ce match donc, entre l'Atalanta Bergame et l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Étienne Moati.
Un plaisir.
Monsieur Étienne.
Ah,
ça y est.
Merci, Annie.
Il a été promu.
En une heure, il a gagné. gagner ça, c'est quand même
c'est honteux. Incroyable.
C'est mon sens de la nuance qui m'a fait obtenir tout ça.
Merci beaucoup Philippe Doucet.
Merci Madame Annie.
Monsieur Philippe. Et on se retrouve nous donc tout à l'heure à partir de 21h10, temps universel, 23h10 heure de Paris. Bon match à tous, bonne soirée.